Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre.
La Colombie, de la violence à la paix.
Nous avons mis fin par la voie du dialogue au plus ancien conflit dans cette partie de la planète. Nous, les Colombiens, sommes aujourd'hui un exemple pour le monde. À compter d'aujourd'hui, nous devons être les dignes porteurs de cet honneur. Il faut reconnaître que nous tous ici avons des morts à pleurer. Des fils, des filles, des sœurs, des frères, des pères, des mères, des amis. Que la gloire soit avec eux, ceux qui sont tombés et les victimes de cette longue guerre qui se termine. Au nom des FARC, je demande sincèrement pardon à toutes les victimes de ce conflit et pour toute la douleur que nous avons pu causer dans cette guerre.
Les négociations que le chef des FARC qu'on vient d'entendre menait avec le gouvernement du président Dos Santos ont été longues, car il s'agissait de trouver un accord tous azimuts. Comment restituer leurs terres et leurs biens aux innombrables personnes déplacées par un conflit vieux d'un demi-siècle au moins? Comment réintégrer les guérilleros dans le jeu institutionnel et politique? Parmi les crimes de guerre commis par les FARC, mais aussi par l'armée et par les paramilitaires, lesquels distinguer afin d'en faire l'objet d'une justice spéciale? Dans le pays, il y eut tant et tant de massacres de populations civiles par des groupes armés. La Colombie, c'est un pays où les institutions n'ont jamais fait l'objet d'une confiance suffisante et où les partis ont été les premiers à considérer l'adversaire comme un ennemi. La violence est née de la politique. Les Colombiens ont donc des difficultés à croire que c'est de la politique que va venir l'issue. Pour beaucoup d'entre eux, la violence, qu'ils écrivent avec un grand V, ne peut être éradiquée que par un traitement lui-même brutal. Aussi le 2 octobre, à une très faible majorité, il est vrai, les électeurs ont rejeté l'accord de la Havane. Mais le texte a été renégocié depuis et le président Dos Santos a bon espoir de le faire respecter. Dès le 7 octobre, le jury du prix Nobel de la paix l'a d'ailleurs soutenu dans la difficulté, lui accordant son prix qui va maintenant lui être remis à Oslo. Cette cérémonie apparaît comme un pari sur l'avenir.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de David Garibay, bonjour.
Bonjour.
Quand on parle de la Colombie, les uns sont des violentologues. Ils cherchent le secret de cette épidémie si difficile à définir. Il y a 70 morts par homicide sur 100 000 habitants en Colombie, 10 fois plus qu'aux États-Unis, 100 fois plus qu'en France. Et puis les autres, comme vous, sont des politologues qui cherchent s'il y a des issues politiques à la difficulté.
Oui, effectivement, quand on analyse ce pays, on est toujours frappé par l'importance de la violence. Donc, l'idée d'une continuité de ces conflits, on va y revenir, mais cette idée qu'il y aurait toujours eu un conflit permanent dans ce pays, et un conflit permanent qui distinguerait la Colombie d'autres pays de la région. En réalité, ces conflits peuvent s'expliquer. Il y a des raisons qui font qu'il y a eu des guerres civiles à des moments donnés ou que ces violences dégénèrent à d'autres moments donnés. Et puis il y a aussi, comme vous l'avez évoqué, des possibilités de solutions politiques qui ont été recherchées en Colombie pour essayer de remédier à cette violence.
Et dès les années 2000, vous aviez fait une thèse qui concernait à la fois la Colombie mais aussi le Salvador, parce que vous avez une perspective de comparaison qui disait que démocratisation et démilitarisation, ça pouvait aller ensemble. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que je peux demander aux politologues, à qui il arrive assez souvent d'aller en Colombie, de faire un petit portrait géographique? Nous sommes tellement ignorants de la Colombie, qui est un grand pays.
Oui, donc un grand pays, grand comme deux fois la France à peu près, peuplé d'une quarantaine de millions d'habitants, donc situé au nord de l'Amérique du Sud, donc qui est un pays qui a à la fois une côte caraïbe et puis aussi une côte pacifique. Et un pays en fait qui est traversé par la cordillère des Andes, donc quasiment du nord au sud. Et en fait, l'essentiel de la population se concentre sur la cordillère des Andes. Donc en fait, la Colombie, c'est de vastes espaces relativement peu peuplés, donc soit l'Amazone par exemple, soit des grandes plaines orientale, et une concentration de la population dans la cordillère des Andes, mais avec un espace très fragmenté, donc qui a fait que pendant très longtemps, la possibilité de se déplacer d'une vallée à l'autre était quelque chose de très compliqué.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et à l'est de la cordillère, il y a de vastes espaces, des régions reculées. C'est peut-être là que peut aussi s'installer l'enclave de guérilla. C'est là aussi que cherchent à s'installer les paysans sans terre. On y reviendra. Je dis qu'on n'est pas très documenté sur la Colombie parce que pour essayer de trouver à l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, des traces d'une époque, d'une petite vingtaine d'années, après la Deuxième Guerre mondiale, que les Colombiens appellent la Grande Violenza, avec beaucoup de majuscules, eh ben, on a trouvé que deux bribes, le début de la Grande Violencia, en 1948, actualité cinématographique, vous allez en entendre le ton, c'est après l'assassinat d'un leader libéral qui allait sans doute être élu président, que les violences commencent.
Bogota vient de vivre des heures dramatiques. Une émeute suscitée par le meurtre du leader libéral Gaïtan s'est déclenchée. Le désordre, le pillage et l'incendie se donnaient alors libre cours dans le centre de la ville, conquis par les émeutiers, et l'on devait par la suite apprendre que 300 personnes avaient été victimes de la folie meurtrière des insurgés.
Ce qu'on connaît de la Colombie, c'est l'excellence de son café. Ce qu'on connaît moins, ce sont ses guerres civiles. Dans ce pays de 16 millions d'habitants, pourtant, la guerre civile est presque une institution. La dernière, de 1948 à 1952, fit au moins 300 000 morts.
Voilà, puis on a trouvé comme en écho ce bilan fait dans les années 1960. La Colombie, à l'époque, n'a que 16 millions d'habitants. On est passé de 300 morts le premier jour, selon les actualités pâtées, à 300 000. Est-ce que c'est d'ailleurs 300 000 ? Il y a beaucoup de personnes déplacées dont il faudrait considérer le sort. Vous avez tendance à dire, vous, Monsieur Garibay, que ce sont les partis politiques, la culture politique, la volonté de chacun des partis politiques d'exterminer l'autre qui sont peut-être à l'origine de la cruauté.
En tout cas, dans ce contexte de la guerre civile, effectivement, des années 50, donc, que les Colombiens appellent la violencia, donc c'est déjà significatif. Hein, on ne parle pas de la guerre civile, on parle de la violencia comme si c'était un phénomène difficilement compréhensible. Or, c'est un affrontement partisan entre deux grands partis, le parti libéral et le parti conservateur. Deux partis politiques comme il en existe dans les autres pays de la région. Simplement, effectivement, dans ces années 50, il va y avoir un affrontement armé extrêmement violent entre ces partis, à la fois au niveau des dirigeants, et c'est le lien avec l'assassinat qu'on a évoqué tout à l'heure.
Le dirigeant libéral.
Le dirigeant libéral. Mais également un conflit qui va se territorialiser très très fortement, donc avec beaucoup d'affrontements entre villages, voire entre quartiers, parce qu'un village appartenait au Parti libéral et l'autre au Parti conservateur, et donc violence, représailles, etc.
Et déplacement de population, aussi bien citadine d'ailleurs.
Tout à fait, déplacement de population, donc dès ce moment-là, donc les populations qui fuient la violence, qui sont chassées par l'un ou l'autre des partis, qui sont pris pour cible de cette violence, et qui, pour une partie d'entre elles, vont essayer de trouver refuge dans les montagnes pour essayer de fuir, en fait, cette violence.
Mais dans le souvenir de chacune des familles de Colombie, il y a des images terribles, des exodes multiples.
Oui, alors c'est effectivement un pays où là, on vous raconte toujours la violence, c'est-à-dire on vous raconte à la fois les événements de la violence des années 50, et puis on va vous raconter aussi les violences plus récentes, celles des années 80, et puis les plus récentes encore, et donc dans le récit familial, social, collectif, vous avez toujours cette présence de la violence, et donc c'est toujours quelque chose qu'il faut essayer, par les partis politiques ou par les acteurs, de traiter, comment on fait pour parler de cette mémoire de la violence, comment on fait pour parler sans reproduire ou sans tenter de reproduire cette violence.
Alors quand la Grande Violencia connaît une fin provisoire, l'apaisement en fait n'est qu'apparent, et on a toujours cette possibilité d'explosion politique qui va être réveillée par les étincelles du mouvement révolutionnaire qui caractérise une grande partie de l'Amérique latine dans les années 1960. Ici, alors ça c'est beaucoup mieux documenté dans les archives de l'INA, il faut rendre hommage à 5 colonnes à la une quand même, c'est une très grande émission de télévision. Jean-Pierre Sergent, réalisateur pour 5 colonnes, s'est rendu dans une terre où se réfugiaient des paysans sans terre et où ils étaient pris pour une formation par des groupes marxistes. On est dans les années 1960, on est à Rio Chiquito. Rio Chiquito,
dans le centre-sud du pays. Et donc effectivement, quelque chose qui va être considéré comme une enclave à un moment donné. Et même les élites politiques vont parler de république indépendante, ce qui est une formulation quand même très exagérée, mais qui rend compte effectivement de ces enclaves, donc de petits paysans qui sont formés effectivement par des militants communistes et qui vont pratiquer une forme, dans un premier temps, d'autodéfense armée.
Sauf qu'en 66, l'encerclement, Jean-Pierre Sergent l'explique, s'organise de la part de l'armée.
La zone alors est complètement encerclée par l'armée qui s'apprête à l'anéantir. Pourtant, derrière le village, le cours d'éducation politique se déroule comme d'habitude.
Nosotros también veíamos que como a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente.
Celui qui parle, c'est un étudiant, Hernando. Il ne voulait pas que son visage soit filmé pour des raisons de sécurité. Une rafale de mitraillettes le tuera quelques semaines plus tard, lors d'un accrochage avec l'armée. Aujourd'hui, la République indépendante de Rio Chiquito n'existe plus. La victoire de l'armée, cependant, n'est qu'une demi-victoire. Le piège s'est refermé sur le vide. La zone d'autodéfense de Rio Chiquito devient un mouvement de guérilla.
Ese movimiento de defensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero.
Sans hâte, sans panique, hommes, femmes, enfants, tous s'enfoncent dans la forêt. L'armée n'occupera qu'une vallée déserte, des maisons vides, des champs abandonnés. Dans la forêt, il n'y a aucune ressource alimentaire, mais 500 bouches à nourrir. Quand la dernière vache aura été abattue, quand les dernières réserves de maïs seront épuisées, il faudra bien sortir. L'armée attend. En vain, car par la montagne, on peut passer. Et tout le monde passera, les guerrillos l'ont dit, sans exception.
C'est bien que David Garibay, vous trouviez excellent le travail de Jean-Pierre Sergent. Ça n'a pas été le point de vue de l'armée colombienne. Je crois qu'il a eu quelques difficultés avec elle et qu'il s'est retrouvé un moment en prison. Cette situation de Rio Chiquito, on la retrouve, c'est un modèle, quoi, à des dizaines d'exemplaires peut-être, dans différentes zones de Colombie.
Oui, effectivement. Donc on l'entendait très bien dans le reportage. Ce sont des paysans, donc en fait souvent qui fuient les violences, qui s'installent dans des terres qui vont donc du coup exploiter, qui vont et avec donc la présence d'un certain nombre de militants politiques qui vont les former. Ces paysans vont être dans une vision d'autodéfense, c'est-à-dire il faut s'armer pour que l'armée justement ne les chasse pas, ou bien que d'autres partis politiques ne les chassent pas. Et donc constituer ces petites communautés, qui étaient en fait des communautés assez isolées et assez peu développées. Et effectivement, à la fin de la période de la violencia, de la guerre civile, cette guerre civile va se terminer par un accord entre les principaux partis, Parti libéral et Parti conservateur.
Là, vous êtes revenu à la fin des années 50,
voilà,
début des années 60. Oui.
Et donc du coup, ces petits groupes-là de communautés paysannes vont être vus par l'État, par ces alliances d'élite politique, comme des ennemis, comme des adversaires qu'il faut éliminer. Donc c'est un peu les origines des FARC, on va sans doute en reparler.
Mais il n'y a pas que les FARC.
Mais il n'y a pas que les FARC.
Dans ces années 60, il y a d'autres mouvements.
Tout à fait. Donc dans les années 60, la Colombie participe à cette vague donc de guérilla qui se diffuse en Amérique latine, sur le modèle de ce qui s'est passé à Cuba, puis ensuite en Bolivie avec le Che Guevara.
Sauf qu'en Colombie, la victoire militaire pour l'armée, on l'entendait dans le reportage de Jean-Pierre Sergent, n'est jamais complètement assurée.
Exactement. Contrairement à ce qui va se passer en Bolivie, par exemple, où la colonne du Che sera éliminée, c'est donc que ces petites formations de guérillas en Colombie sont affaiblies par des actions de l'armée, mais elles ne seront jamais détruites. Et donc, en fait, ces groupes de guérillas vont persister dans le temps, plutôt dans une position assez marginale, en tout cas jusqu'aux années 80, mais jamais totalement détruites. Et donc, elles sont toujours là, ces guérillas, contrairement à ce qui se passe, donc, effectivement, dans d'autres pays, dans les années 60 ou 70.
Pause, si vous le voulez bien, David Garibay. La radio, comme les auditeurs de cette émission, l'aime, j'en suis sûr, avec pas mal de sport, de la pub et des variétés.
Caracol Radio presenta Nuestro Deporte. El técnico argentino Eduardo Domínguez y el paraguayo Ever Hugo Almeida figuran en carpeta del Independiente Medellín para asumir la dirección técnica del conjunto antioqueño.
Más información en caracoldeportes.com y en Twitter @caracoldeportes.
Con Renault Servicios recibe gratis un año o 10.000 kilómetros de garantía adicional. Renault presenta en 6 AM hoy por hoy una noticia de servicio. Darío Arizmendi es Caracol Radio.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec « Je ne vais jamais trouver le rythme de Radio Caracol », David Garibay parle de la violence en Colombie. C'est un pays extrêmement dynamique, énergique, la Colombie.
Tout à fait, c'est un pays très très vivant. Il y a à la fois, c'est un pays qui est plein de contrastes, parce qu'il y a à la fois cette présence de la violence, cette présence de la guerre, etc. Et puis en même temps, une société qui est extrêmement vivante, très, très, très accueillante, où les gens sont vraiment les bras ouverts, et avec donc cette musique qui est omniprésente. Et c'est vrai que c'est à la fois un peu une image un peu caricaturale, mais c'est vrai, enfin, ce contraste entre cette société très vivante.
Il y a des morts dans chaque famille, mais les familles sont nombreuses.
Les familles sont nombreuses, oui, tout à fait.
On va entendre tout à l'heure un extrait de La Vierge des Tueurs, un film qui se passe à Medellín. Quand on regardait les images de La Vierge des Tueurs, moi j'ai jamais été en Colombie, j'étais quand même stupéfait de voir la modernité de la ville.
Tout à fait.
Les téléphériques avant Brest, hein, c'est inventé à
tout
Medellín.
Tout à fait, les villes colombiennes sont des grandes villes très développées, mais ça rend compte aussi des différences qui existent en Colombie, les différences sociales et économiques qui existent en Colombie. C'est-à-dire que vous avez des villes où vous avez des quartiers extrêmement riches, extrêmement développés, où vous retrouvez le même niveau de service qui existe dans les villes européennes. Et puis, un petit peu plus loin, vous allez avoir des quartiers périphériques et marginaux où il n'y a pas du tout d'accès aux services publics, des choses comme ça.
Donc, mais c'est une leçon pour la France. La violence n'arrête pas les affaires.
Non, c'est sûr.
Justement, à propos d'affaires, alors en France, on pense tout de suite, Medellín, cartel de Medellín, détruit par le gouvernement avec l'aide du cartel de Cali, et puis le gouvernement se tourne contre le cartel de Cali, et puis il le démantèle, sauf que naissent 200 sous-cartels.
C'est exactement ça qui s'est passé. Vous avez dans les années 80 l'explosion du trafic de drogue en Colombie. La Colombie devient véritablement le centre du trafic de drogue en Amérique du Sud, à la fois pays producteur et transformateur, donc constitution de ces énormes cartels. Et puis le gouvernement va effectivement réussir à les détruire l'un après l'autre. Le problème, c'est que ça ne signifie pas la fin du trafic de drogue. Et vous avez donc une multiplicité de petits cartels aujourd'hui disséminés sur le territoire qui continuent à avoir une activité importante en matière de trafic de drogue.
Alors l'armée, pour lutter contre les guérilleros, par exemple, s'adjoint le service de paramilitaires, les particuliers ou les entreprises s'adjoignent le service de sociétés de sécurité, sauf que les paramilitaires et les sociétés de sécurité entrent, par exemple, dans l'économie de la drogue.
Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez, dans les années 80, ce panorama qui pouvait apparaître comme relativement simple dans l'opposition entre un gouvernement et des guérillas révolutionnaires, devient très complexe par le fait que vous avez à la fois les trafiquants de drogue, vous avez des paramilitaires qui sont constitués en partie comme des émanations de l'armée pour faire en quelque sorte les bases œuvres, pour pas que ça soit l'armée qui apparaisse comme responsable de crimes contre les droits de l'homme. Ces paramilitaires sont à leur tour financés par des grands propriétaires terriens. Les narcotrafiquants vont pouvoir avoir des liaisons collusives avec un certain nombre d'acteurs. Et donc vous avez une complexité des relations entre les acteurs qui fait qu'il n'est pas simple de savoir à qui on a affaire.
Je parlais de La Vierge des Tueurs, c'est à l'origine un roman de Fernando Valero, et c'est devenu un film de Barbette Schroeder. Le narrateur drague un jeune homme dans la ville de Medellín, où il n'était pas revenu depuis longtemps, et qui le laisse stupéfait à tout point de vue.
Et d'où tu es, petit ?
D'ici, de Medellín.
On appelle Medellín Medallo ?
Et on l'appelle Métraillot aussi.
Comme une mitraillette ? Ou une mitrailleuse ?
Ouais. Fais gaffe ! Fais gaffe !
On se
se sont encore allumés méchants, ces espèces de branleurs. C'est deux bandes rivales du quartier de Santo Domingo, Savio.
Eh ben, qu'est-ce que ce serait si leur quartier ne portait pas le nom d'un saint ?
Mais remarque, c'est pas si bête d'avoir changé le nom de cette ville. Medellín, c'était un peu vieillot. C'était le nom d'une porcherie de la région d'Estrémadour. Plus personne ne le sait ici. Et puis tout le monde s'en fout. Tu sais où c'est, l'Estrémadour ? En Espagne.
Tu connais ? T'as été là-bas, toi ?
Oh, moi, je suis allé partout.
Oui, comme les sorciers.
C'est vrai ?
C'est vrai.
Et t'es revenu pour quoi ?
Pour mourir. Déshabille-toi, petit.
C'est pour me protéger.
De quoi ?
De tout. On m'a tiré dessus au canoncier dans une rue de mon quartier.
Bah alors, les scapulaires ne servent à rien ?
Ah si, elles servent parce que si je les avais pas eues sur moi, ils m'auraient eu.
Ah oui, ça c'est d'une logique désarmante. Toute discussion est inutile.
Et d'ailleurs, le gamin, avant d'aller commettre un assassinat ou deux, va prier la Vierge des tueurs. C'est très bien les livres des politologues, les travaux comme les vôtres, David Garibaldi, mais Fernando Valero, c'est intéressant pour la Colombie. Puis ce qui est bien, c'est que les intellectuels de gauche le considèrent comme un conservateur, et les conservateurs le considèrent comme leur bête noire.
Tout à fait.
Alors, lui, il a une recommandation, c'est un désastre sans remède. Il faut partir, il s'est installé dans le pays de votre père, au Mexique. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus calme maintenant.
Aujourd'hui, non.
Alors, c'est un désastre sans remède et il faut taper. Est-ce qu'il faut pratiquer la politique de la brutalité ? C'est une des options qu'à certains moments, les gouvernements colombiens ont vraiment tout à fait privilégié à l'exclusion de toute autre solution.
Oui, et ce qu'on constate dans les positions des différents gouvernements colombiens, c'est que vous avez des successions entre des gouvernements qui vont essayer de trouver des solutions de dialogue, de paix, de négociation, et puis effectivement des gouvernements qui vont, eux, plutôt privilégier la politique de la guerre, et ça a été le cas.
Alors, racontons la politique de la guerre.
Donc, ça a été le cas du président antérieur, donc du président Álvaro Uribe, donc qui
est...
Début des années 2000, donc un conservateur, qui va donc décider de désormais faire la guerre contre la guérilla, donc il va renforcer la capacité militaire de l'armée avec l'aide des États-Unis, donc une aide financière extrêmement importante.
Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des États-Unis, mais enfin la politique colombienne est un peu déterminée
tout
par
à fait.
La politique américaine.
Et donc un renforcement militaire très important, un ciblage des actions contre la guérilla, et donc il y a eu tout un ensemble d'événements militaires donc qui se sont traduits par la mort en combat d'un certain nombre de dirigeants de la guérilla. Et en parallèle de cette stratégie, une stratégie de négociation donc avec ces groupes paramilitaires qu'on a évoqués tout à l'heure, groupes paramilitaires qui étaient responsables de très nombreux crimes contre l'humanité et que le président Uribe va donc
tenter de réintégrer. Alors on va entendre un sujet 2003, c'est un sujet de France 3. Sur les paramilitaires. Paramilitaires, faut pas rigoler avec eux. On n'a pas beaucoup de documentation les concernant parce que c'est pas très facile de les approcher. Et puis, ceux qui sont leurs victimes, ici dans le quartier d'une ville colombienne, sont souvent un peu silencieux.
Très difficile de faire dire aux déplacés qu'ils ont fui. Un animateur social accepte enfin de témoigner prudemment.
Par exemple, le cas de mon pueblo.
Dans mon village, 400 paramilitaires ont débarqué. Ils nous ont demandé d'abandonner les lieux. Sinon, l'ordre était de tuer tout le monde et de brûler les maisons. En 8 ans, ici, 100 personnes ont été assassinées. En 8 ans, comme des chiens, parfois égorgés, massacrés devant leur maison, face à leur mère, face à leurs enfants ou à leur famille. Parmi ces 100 personnes, trois grands leaders communautaires. Ils ont été assassinés ces dernières années.
Mais qui tue ?
On les appelle les paramilitaires.
C'est un reportage de Jean-François Boyer. Les paramilitaires, ils vont s'attaquer souvent aux animateurs de la société civile, ceux qui essayent d'apporter un peu de paix et de solidarité quotidienne au nom du principe « l'arbre tordu, ça se redresse avec du plomb ».
Oui, les paramilitaires ont une stratégie effectivement très ciblée de viser donc les leaders communautaires, les dirigeants de groupes locaux, les syndicalistes, les journalistes, enfin toutes les personnes qui ont des rôles importants au niveau local, qui essayent d'organiser les communautés, qui sont reconnues par leurs groupes communautaires comme voilà des personnes qui ont une implication sociale, et les paramilitaires vont effectivement les cibler, les viser, les assassiner, et puis également commettre des assassinats de populations civiles avec des stratégies de la terreur, c'est-à-dire de vider en fait des régions de
alors,
leurs
ces habitants. Ces régions vidées de leurs habitants, à qui reviennent les terres? Aux paramilitaires?
Eh bien, ils reviennent aux paramilitaires. Alors, une partie de ces terres vont être utilisées pour le trafic de drogue. Une autre partie de ces terres, par des formes de collusion, vont être éventuellement utilisées par des entrepreneurs, donc entrepreneurs légaux, mais qui vont s'accaparer la terre de façon illégale. C'est le cas, par exemple, dans un certain nombre de cultures aujourd'hui, comme la palme ou d'autres choses de ce type-là. Donc, vous avez le fait qu'il y ait des acteurs donc dont on ne sait pas très bien qui ils sont. On sait que les paramilitaires sont ceux qui arrivent et qui exercent la violence, mais derrière les paramilitaires, qui il y a? Et il y a très souvent, effectivement, des acteurs privés qui, du coup, se servent de ces acteurs paramilitaires.
On insiste un peu sur les paramilitaires, parce que les FARC, on les connaît moins mal. On a lu, peut-être, le témoignage à bien des égards bouleversant d'Ingrid Bettencourt. Les FARC qui pratiquent l'industrie du rap, ne sont-ils d'ailleurs les seuls à la pratiquer en Colombie? Mais ils sont plus très nombreux, les FARC. Ils sont moins de 10 000, ils sont usés.
Ils sont de moins en moins nombreux. La politique de guerre menée par le président Olivé a eu des effets en termes de réduction de la capacité militaire des FARC. Et donc, effectivement, les FARC sont beaucoup moins forts que par le passé. Et puis, sont aussi, d'une certaine manière, beaucoup moins... d'une certaine façon décrédibilisé dans la société civile. On le voit aujourd'hui dans les débats autour de l'accord de paix. Et ça participe aussi de ce discours qu'a mis en place le président Olivé en disant que les FARC étaient simplement des trafiquants de drogue, ils n'étaient pas des acteurs politiques.
Alors justement, trois dossiers qui commandent les chances de succès de l'accord de paix. La réinsertion dans le jeu politique. Alors ça, c'est une de vos grandes spécialités, David Garibay. Vous avez observé ça au Salvador aussi. Vous avez vu que ça a été tenté plus d'une fois en Colombie. Mais évidemment, si on réinsère des guérilleros du M19, une autre guérilla, et qu'on liquide après 3000 personnes qui essayaient de transcrire en politique les objectifs du M19, ça marche pas.
Effectivement, c'est un des enjeux centraux de cet accord de paix. Il va falloir que les FARC se transforment en parti politique. Et non seulement il va falloir qu'ils se transforment, mais il va falloir qu'ils aient un certain succès. Parce que les militaires des FARC n'ont pas négocié tout ça pour être des acteurs politiques marginaux. Donc l'idée, c'est que voilà, le parti politique a un certain écho au niveau local. Et là, il y a des régions où les FARC sont effectivement influentes, mais aussi au niveau national, et donc par un ensemble de figures politiques centrales.
Deuxième dossier, la justice. Alors, il n'est pas question de savoir qui a commencé. Il n'est pas question de traiter tous les crimes de guerre. Il faut en isoler quelques-uns. Le recrutement des enfants, par exemple. Et ça doit être dévolu à une justice spéciale.
Oui, l'accord de paix prévoit effectivement des mécanismes de justice spéciale, ce qu'on appelle de la justice transitionnelle. Donc une justice qui aurait pour rôle de juger les responsables des crimes qui ont été commis pendant cette période de la guerre, qu'il s'agisse de militaires ou qu'il s'agisse d'anciens guérilleros ou de paramilitaires, avec l'idée qu'il y ait une reconnaissance des crimes qui ont été commis, qu'il y ait une forme de sanction et éventuellement une forme par la suite d'amnistie.
Troisième dossier, celui de la terre qu'on a évoqué plus d'une fois. Alors comment savoir qu'une terre a été confisquée? Parfois, elle n'a pas été confisquée. Vraiment, elle a été rachetée à très bas prix.
Oui, tout à fait. La terre va être sans doute le problème numéro un dans la mise en œuvre des accords de paix, parce que effectivement, l'accord de paix prévoit la possibilité pour les victimes d'avoir accès à des terres, ou pour les anciens guerriers, ou pour les anciens soldats. Et lorsque l'on donne un titre de terre, eh bien, très souvent, cette terre est déjà occupée par d'autres, et cela va constituer un problème central s'il n'est pas traité de façon importante.
Voilà un pays qui n'a pas connu de réforme agraire, qui a connu la confiscation des terres et qui en plus est déjà à l'heure de l'agro-industrie. Merci à vous David Garibay, l'émission était préparée par Ilinka Negulesco, Franck Olivard à la technique, Elodie Royer, et la réalisation, c'était Valérie Aestarayo. Programme de la tête au carré, Mathieu Vidard.
Un sujet de passion, Jean, puisque nous allons parler de la vaccination dans un instant. Nous attendons les messages des auditeurs déjà.